Bonjour tout le monde. Ce matin, l'étude que nous voulons considérer, c'est dans le cadre de la série « Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent ». La leçon 17, nous allons regarder ensemble l'avortement. L'avortement, dans cette étude de l'avortement, nous allons regarder premièrement les statistiques sur l'avortement. Les statistiques sur l'avortement. Après cela, nous allons regarder l'avortement selon le monde, les points de vue du monde sur l'avortement. Et ensuite, nous allons regarder l'avortement selon la Bible. Nous allons terminer avec des conseils bibliques là-dessus. Premièrement, l'avortement. Par définition, l'avortement, c'est une interruption volontaire. On parle d'une interruption volontaire d'une grossesse. Et d'après les statistiques, les statistiques qu'on a regardées dans le cadre de cette étude, ce sont des statistiques qui ont été publiées dans le livre « Avortement » du docteur Lizzie Ling et Vaughan Roberts. Et d'après les recherches de ces docteurs-là, ils disent qu'environ 40 millions d'avortements chaque année sont effectués dans le monde. 40 millions d'avortements sont exécutés dans le monde chaque année. Aux États-Unis seulement, il y a environ 2400 en moyenne par jour. Et au Royaume-Uni et en France, environ 600 avortements sont pratiqués par jour. J'ai vite regardé les statistiques pour le Québec. C'est pas bien différent. Mais il y a un article que j'ai trouvé sur qui a été publié par Le Devoir en 2003. C'est une publication des statistiques sur le taux d'avortement au Québec. Voici ce qu'il y a dit. Les statistiques révèlent que le taux d'avortement ne cesse d'augmenter au Québec. En 2001, il se situait à 19,9 pour 1000 femmes de 15 à 44 ans. Il s'agit d'une hausse de 30% depuis 10 ans. Selon le docteur Lucie Vaillancourt de l'hôpital Saint-François d'Assise, des raisons socio-économiques peuvent expliquer cette hausse importante qui se vérifie malgré l'accès facile aux contraceptifs. La précarité financière et l'instabilité des couples peuvent pousser une jeune femme à avoir recours à l'avortement. On déplore aussi que les familles et le milieu scolaire ne parlent pas suffisamment de contraception. Voilà la solution du monde, n'est-ce pas? Le programme ne prévoit en effet que quelques heures seulement au secondaire dans le cadre du cours de formation professionnelle et sociale. Le groupe d'âge qui a le plus souvent recours à l'avortement est celui de 20 à 24 ans. Viennent ensuite les 25 à 29 ans, puis les 15 à 19 ans. Selon les analyses de l'Institut de statistique du Québec, le recours à l'avortement est souvent utilisé dans le cas d'échec de la contraception. Voilà ce qui est dit d'après la publication dans Le Devoir il y a quelques années. Alors, dans le monde, il y a plusieurs points de vue par rapport à l'avortement. Et l'un des points de vue, c'est celui du pro-choix. Alors, d'après le pro-choix, ce mot, cette vision-là, cette vue-là, c'est comme ils disent que mon corps, c'est mon choix. OK? Mon corps, c'est mon choix. Ça veut dire que toute femme a le droit de décider ce choix-là, de décider librement du sort de ses grossesses. Elle peut aussi déterminer si elle veut une grossesse et si elle le veut, quand est-ce qu'elle veut cette grossesse-là. Il y a aussi le droit de l'enfant d'être désiré. Vous comprenez tout de suite qu'est-ce que ça veut dire, hein, n'est-ce pas? Alors, si la grossesse n'est pas planifiée, on peut se permettre de recourir à l'avortement, si c'est le résultat d'un accident, si on peut le dire comme ça. Si la relation avec le conjoint s'est détériorée à travers le temps, alors, c'est mon corps, c'est l'enfant a droit à être désiré, le droit de l'enfant d'être désiré. On peut regarder cette alternative, cet argument-là, pour aller de l'avant avec un avortement. Ça, c'est toujours selon le point de vue pro-choix. Si c'est le résultat d'un viol, si c'est le résultat d'une relation extra-conjugale, ou des manques de ressources financières. Pour toutes ces raisons-là, ben, l'enfant doit être désiré. Si l'enfant n'est pas désiré d'après cette façon de voir les choses, ce point de vue-là, c'est que, on a le choix de procéder à l'avortement. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit de l'enfant d'être né normal. C'est quelque chose que vous avez sûrement entendu. Souvent, les femmes qui sont enceintes d'un certain âge, autour de la quarantaine, souvent, c'est une solution qui est proposée souvent aux femmes qui ont une grossesse un peu dans les quarantaines. Et ça veut dire qu'il y a des risques que l'enfant soit né avec une malformation. Fait que c'est une solution qu'ils peuvent proposer, qui peuvent être proposées selon ce point de vue-là, pro-choix. Alors, prévenir, tout cela, c'est pour prévenir la naissance d'un enfant mal formé. Il y a aussi un autre point de vue qui s'appelle le point de vue pro-vie. Alors, ça dit tout, là. C'est la protection du droit à la vie de l'enfant. Alors, d'après eux, la suppression d'une vie, c'est un meurtre. Ils le considèrent comme un meurtre. Mais ce n'est pas forcément un point de vue chrétien. Non, tout le monde peut penser que puisqu'on dit pro-vie, c'est forcément chrétien, mais ce n'est pas le cas. Aussi, on parle aussi du fait que si la vie de la maman est en danger, est menacée, ce point de vue-là, d'après ce point de vue-là, on peut procéder à l'avortement. Il y a aussi dans certains pays asiatiques ce qu'on appelle l'avortement sélectif. Alors, pour des raisons culturelles, spécialement en Inde et en Chine, on peut décider de ne pas avoir une fille. On peut avoir la préférence pour un garçon, un fils. Alors, dans ce cas-là, on peut avorter, si la maman est enceinte d'une fille, on peut procéder à l'avortement. Et aussi, ils s'en servent aussi pour contrôler, si on veut, éviter la surpopulation. Alors, pour eux, c'est correct, si on veut, parce que la population du monde est en explosion. Alors, on veut contrôler cette explosion-là. Alors, voilà. On peut procéder, d'après eux, à l'avortement dit sélectif. Si on regarde, on écoute les nouvelles, on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut tout de suite remarquer qu'il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, la valeur accordée à la vie humaine a radicalement changé. Dans le passé, nous allons voir comment ça a évolué. Procéder à l'avortement était considéré comme un crime. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Historiquement, si on regarde l'histoire du droit à l'avortement au Québec, de 1892 à 1969, l'avortement était considéré comme un acte criminel. Quelqu'un qui avait procédé à l'avortement dans les années, à la fin du 19e siècle, jusqu'au mi-du 20e siècle, on ne pouvait pas sortir de là, c'était considéré comme un acte criminel au Québec. Mais à partir quelques années plus tard, entre 1969 et 1988, à peu près 20 ans, l'opinion a changé, l'avortement est devenu permis. Il n'est plus un acte criminel, il est permis, mais seulement dans certaines conditions. Et ça continue d'évoluer aussi. Plus tard, on voit depuis 1988, l'avortement n'est plus considéré comme un crime, n'est plus un crime dans notre chère province du Québec. Vous pouvez le consulter vous-même. Il y a un site qui parle de cela. C'est le site qui est indiqué ici, droitdenaître.org. Et il y a pas mal d'informations là-dessus. Et d'après ce site-là, j'ai été chercher quelques informations et il parle de trois méthodes qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a plus que trois, mais moi, j'ai considéré seulement les trois que je vais vous présenter. Trois des méthodes utilisées pour avorter, pour empêcher qu'un enfant soit né. Il y a ce qu'ils appellent le curetage. Et d'après cette méthode-là, qui est utilisé pour les grossesses les plus évoluées, par exemple à 12 semaines, qu'est-ce qu'ils vont faire? On dilate le col de l'utérus pour permettre l'introduction à l'intérieur de l'utérus de la curette au moyen de laquelle le fœtus est déchiqueté. Quand j'ai vu ça, là, mon cœur m'a arraché de force. Là. Le fœtus est déchiqueté. C'est une procédure qui est utilisée, une méthode qui est utilisée pour faire l'avortement aujourd'hui. C'est l'une des méthodes. Il y a l'autre méthode qu'on appelle injection salée. Alors, selon cette méthode-là, qui est utilisée après 16 semaines, lorsqu'il y a suffisamment de liquide amniotique autour du bébé, alors ce qui est fait, on remplace une certaine quantité de ce liquide-là par une quantité équivalente de poison, la solution saline concentrée. Ça a pour effet de tuer l'enfant en lui brûlant la peau et les poumons en plusieurs heures de souffrance atroce. Si la maman n'est pas anesthésiée, elle ressent très fortement les mouvements de l'enfant agonissant dans son ventre. Et finalement, elle accouche un enfant mort. Voilà les pratiques, entre autres, qui sont utilisées dans le monde pour procéder à l'avortement, parce que on a, pour toutes les raisons qu'on avait évoquées, les arguments qu'on avait évoqués tantôt, soit pour justifier le fait qu'on a droit, que notre corps nous appartient, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle, qu'ils utilisent la pilule abortive. Et selon le rapport de la FDA, c'est le Food and Drug Administration aux États-Unis, la pilule abortive a coûté la vie à plus de 3,7 millions de vies prématurées en 2020. C'est pas long, là. C'est il y a deux ans. Cette pilule-là a causé 24 décès de femmes et a entraîné au moins 4195 réactions indésirables pour les futures mamans. On parle d'hémorragie, douleurs abdominales atroces et des infections graves potentiellement mortelles. En faisant mes recherches sur un site qui s'appelle SOS Grossesse, il y a une question qui est posée dans la rubrique « Mythes et réalités ». Et il se pose la question. La question est la suivante. Est-ce que l'interruption de grossesse être maître? Et la réponse, c'est faux. Si on fait une interruption de la grossesse, si on tue un enfant avant sa naissance dans le ventre, c'est pas un maître. On voit vraiment que la valeur accordée à la vie d'un humain a beaucoup changé dans ces dernières années. Alors, ils disent que d'après le jugement de Morgan Taylor, prononcé par la Cour suprême du Canada en 1988, ça a décriminalisé l'interruption de la grossesse. C'est comme si l'interruption de la grossesse n'est assujetti à aucune loi. Il est donc faux de dire qu'il est un maître. Fait qu'on peut procéder à l'avortement comme on veut. Cette pratique-là, veut pas, il y a des conséquences. Ça va dépendre du point de vue où on se trouve. Pour le point de vue mon pro-choix, il va dire, ben, il n'y a pas de problème. C'est une opération qui se fait dans la joie, tout le monde est content, il n'y a pas de séquelles après cela. C'est là leur slogan. Tout est correct, la femme est heureuse parce que c'était son choix, etc. Et puis, elle est bien dans sa peau. Mais d'autres études révèlent que ce n'est pas la vérité, ça. Et on dit que des gynécologues expérimentés s'accordent pour affirmer que les avortements pratiqués par des médecins compétents dans de bonnes conditions, en début de grossesse, c'est-à-dire dans les 8 premières semaines, ne produisent probablement pas de complications physiques dans la majorité des cas. L'opération devient plus difficile dans les 4 semaines suivantes. Après la fin du premier trimestre, il y a une augmentation marquée du nombre de complications et de leur gravité. Alors, tout ça, c'est tiré du livre « Naître ou ne pas naître » de Margaret Payne. Malgré ce qu'on dit, l'autre partie, les chercheurs, les scientifiques, se sont mis d'accord pour conclure qu'il y a des séquelles physiques et psychologiques qui accompagnent l'avortement. Et parmi ces séquelles, on peut énumérer la perforation utérine par accident, même si l'opération a été faite par les plus grands, les plus expérimentés chirurgiens. Il y a un potentiel d'erreur, il y a un potentiel d'accident qui peut arriver et que peut avoir la perforation par accident. Il y a aussi l'hémorragie qui peut survenir pendant l'opération ou après l'opération. Ça, c'est des séquelles physiques. Il y a aussi les irrégularités menstruelles, des pertes accrues et des rapports sexuels douloureux. Une conséquence, c'est l'effet sur les futures grossesses, les grossesses ultérieures plus tard. On parle d'une augmentation marquée des fausses couches. On parle aussi des enfants qui sont nés prématurément. Et ça peut conduire même au décès. Toutes ces, dans la liste de séquelles physiques, on peut même énumérer, comme j'ai dit, là, le décès même, la femme peut arriver à mourir pendant la chirurgie, pendant suite aux complications qu'il y a eu pendant cette opération d'avortement. Tout ça, c'est souvent le monde. Et on voit que le monde ne voit pas un mal, finalement, dans l'avortement, et que pour eux, tout est correct. Et si nous n'avons pas eu le temps de regarder toutes les définitions là qu'ils donnent, comment ils définissent un fœtus, il y a des nombres de semaines à respecter, etc. Comment, dépendamment de l'âge du fœtus, ils vont le considérer comme étant un humain ou pas. Mais c'est des informations qu'on peut aller chercher, regarder comment les gens pensent, comment ils définissent un humain. Mais nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment de regarder le côté biblique. Comment est-ce que Dieu voit cela? Qu'est-ce que la Bible en dit? La Bible ne parle pas spécifiquement de l'avortement en tant que tel, comme une femme qui avorte. Il y a des thèmes qui ont un rapport à l'avortement, mais ce n'est pas spécifiquement dans le sens qu'on l'étudie ce matin. Mais une chose qui est claire dans la Bible, c'est que Dieu est présent dans tout le stade, dans toute la conception, tous les stades qui amènent à la naissance, Dieu est présent. Et déjà dans la Genèse, on voit, avant même après avoir créé l'homme et la femme, Dieu bénit l'homme et la femme. Il leur donne sa bénédiction. Il les rend capables, d'après nous, de procréer. Le Créateur lui-même, il bénit, il les rend féconds et il leur dit, soyez féconds et remplissez, multipliez-vous. Alors on voit que Dieu, c'est dans le plan de Dieu même que l'homme ou la femme soit fécond. C'est une bénédiction même de sa part. Et dans Genèse chapitre 4, verset 1er, voilà ce que dit Ève. Le texte nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Pour Ève, c'était clair. Dieu était présent dans la formation de cet enfant-là. C'était clair pour elle que sans Dieu, elle n'aurait pas pu avoir un enfant, créer un homme. Et si Dieu s'est investi, si Dieu s'est investi dans la création d'un fœtus, la création d'un homme, d'un humain, il ne laissera pas tomber. Il y a un plan définitivement, on va le voir plus tard dans d'autres textes bibliques, que Dieu a un plan pour chacun de sa création. L'humain était capable de procréer sans l'aide de Dieu. Peu importe ce qu'on pense, si Dieu ne donne pas cette capacité de procréation, l'homme ne peut pas procréer. Alors, c'est Dieu même qui est à la base de la création de la vie, on le sait. Si Dieu s'investit dans la procréation, comme nous l'avons dit tantôt, il y a un plan. Et ce plan-là ne se met pas à l'exécution seulement à la naissance. Ce plan-là s'accomplit déjà dans la conception. Avant même que l'enfant arrive à terme, Dieu est à l'œuvre. Et c'est ce que nous croyons voir dans la Bible, et spécialement dans ce texte où Ève comprend et s'exprime de façon telle, sachant que elle a pu former un homme avec l'aide de Dieu. La vie prénatale. Quand on regarde dans la Genèse, on voit Isaac. Isaac supplia, nous dit le texte, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Et je pense que c'est on a beaucoup d'exemples dans notre église, des personnes ou des femmes qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui ont prié, et Dieu a répondu à leur prière. C'est vraiment le plan de Dieu. Moi qui vous parle, votre serviteur, ma mère me disait dans ses témoignages de vie qu'elle a prié 13 ans avant de m'avoir. Et c'est pour ça, mon nom Isaac, ce n'est pas un miracle, c'est juste, c'est vraiment Isaac d'après elle avait foi dans cette parole-là. Et nous croyons vraiment qu'en tant que chrétiens, que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la capacité de procréer. Et dans le cas de Rebecca, elle tomba enceinte quand Isaac a prié pour sa femme. Et les deux enfants, nous connaissons l'histoire, ces deux enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Je pense que là, il y a aussi un autre enseignement pour toutes les femmes qui sont enceintes, de pouvoir continuer cette relation avec Dieu, de consultation Dieu, avec Dieu pour leurs enfants, dans tous les stades de cette grossesse-là, de cette gestation, que, sachant que Dieu est là, Dieu soutient cette vie-là, Dieu prend soin de cette vie-là, de l'enfant et de la maman, et qu'on peut toujours, et c'est la chose, je pense, qu'il faut faire en tant que chrétien, quand on est enceinte, on parle des femmes, elles peuvent consulter l'Éternel, demander ce qu'elles veulent, les plans de Dieu, etc., entrer dans cette relation avec leur Créateur par rapport à leur enfant. Et dans le cas de Rebecca, elle a fait ça, elle consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera le plus fort et l'autre, le plus grand, sera servi au plus petit. » Vous connaissez très bien l'histoire. Ça se lit dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Alors on voit l'Éternel qui exauce la prière de ceux-là, de cette femme-là qui était stérile. Et nous avons tellement d'exemples dans la Bible qui nous parle des réponses de notre Seigneur, de notre Créateur, de notre Dieu à ce problème d'infertilité, de stérilité. Et nous continuons de croire à cela. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Et nous pouvons toujours demander au Seigneur, si c'est sa volonté, qu'on puisse avoir un enfant. Et je sais que les enfants, beaucoup de femmes aujourd'hui dans cette église ont eu une réponse positive de la part du Seigneur par rapport à cela. D'autres textes qui nous parlent de la vie prénatale, ça veut dire la vie est déjà existante. Même si l'enfant n'est pas encore né, la naissance, on n'est pas encore arrivé à la naissance, mais il y a une vie. La vie est là. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon être, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. On reconnaît très bien ce psaume, le psaume 139, où David épanche son cœur, il est surpris, étonné de voir comment cette création-là est merveilleuse, et comment est-ce que Dieu, avant même qu'il soit né, qu'il était une masse informe, Dieu déjà avait des plans pour lui. Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, qu'avant même qu'on arrive à la naissance, au même stade de fœtus, Dieu a un plan pour son enfant. David le sait, David le reconnaît. Mais il y a un texte qui nous parle aussi, à travers tout cela, au travers des lois naturelles, bien entendu, on ne croit pas que Dieu est intervenu physiquement dans le sens, chaque fois qu'il y a une naissance, qu'il intervient comme ça, de façon physique et active. Mais ce qu'il est actif au travers des lois naturelles, on sait qu'à travers les lois naturelles qu'il a déjà établies, Dieu lui-même, il forme sa créature. Il s'intéresse personnellement, on le voit, il a des plans pour sa création. Il s'intéresse personnellement à sa création et il intervient activement dans les plans, dans les desseins qu'il a pour chacun de ses enfants. Et il y a un autre texte que nous pouvons lire dans Jérémie. Jérémie, c'est le prophète qui a prophétisé sur Judas. Le texte nous dit, « Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est l'Éternel qui parle. « Je te connaissais, Jérémie, toi, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Dieu avait un plan pour Jérémie. Vous connaissez toute l'histoire de Jérémie, comment Dieu a se servi de Jérémie. En fait, nous avons déjà un livre qui parle de ce prophète-là, qui parle de comment Dieu l'a utilisé. Et c'est dans ce livre-là que nous pouvons lire comment Dieu l'a choisi. Dieu avait son plan déjà pour lui. Dieu l'avait établi. Waouh! Établi même prophète des nations avant même sa naissance. Et encore là, au travers des lois de la procréation que Dieu a lui-même établi, Dieu a façonné l'individu. Dans ce cas-ci, Jérémie est déjà dans l'utérus en vue des projets que Dieu avait pour Jérémie. Dieu a un projet pour sa création, déjà même, avant même qu'il soit né. Et c'est ce que Dieu déclare dans le cas de Jérémie, et nous croyons que c'est cela pour chacun de nous. Et l'identité du prophète, son identité de prophète, n'était vraiment pas liée à un stade de son développement. Il n'était pas arrivé à un moment donné, Dieu dit, bon là, tu es correct, tu es bien formé, là, je vais te faire prophète. Non, avant même qu'il eût, dans le ventre même de sa mère, qu'il eût été formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait, Dieu avait un plan, un dessein très précis pour Jérémie. Et on l'a vu tout le long de l'histoire, tout le long du livre de Jérémie, comment Dieu utilise ce prophète-là pour aller prêcher, exhorter le peuple Israël avant même d'aller en exil, pendant qu'ils sont en exil, puis leur donner des messages de délivrance, comment Dieu, des messages de délivrance à venir, quand le temps sera arrivé. Donc Dieu utilisait puissamment le prophète Jérémie d'après les desseins qu'il avait pour lui avant même qu'il fût né. Et maintenant que nous ayons vu tout cela, on voit que le point de vue du monde est vraiment contraire au point de vue de la Bible, parce que le monde ne voit pas, ne considère pas le fœtus forcément comme un humain. Avant la naissance, c'est comme ils ne voient pas, ils ne considèrent pas comme, disons, comme un humain, et alors que Dieu, déjà dans le ventre, avant même qu'on soit né, quand on a encore une masse, Dieu avait un plan pour nous. Et je dirais même avant même cette génération même, la génération d'avant et la génération à l'avant, Dieu a un plan pour ses enfants. Et ça s'accomplit avec puissance. Peut-être que ce matin, vous qui écoutez ici dans le bâtiment, ou ceux-là qui écoutent sur Internet, vous êtes face à une décision, je ne sais pas, ou vous avez été touché par l'avortement et que vous avez été traumatisé, vous avez subi les conséquences de cet acte. Et que malgré les enseignements, on parle des chrétiens, les statistiques qu'on a évoquées tantôt, c'est pas juste dans le monde non chrétien, là. Ça inclut l'ensemble des chrétiens, les gens qui sont à l'église, qui malheureusement, des fois, qui, pour toutes des raisons, ont choisi d'aller dans considérer l'avortement. Et comme je dis, je ne sais pas dans quelle position vous sentez ce matin, mais je pense que la Bible est là pour nous guider. Et si malgré les enseignements de la Bible, la vie et les circonstances de chacun peuvent s'avérer très difficiles et très différentes aussi. Et peut-être qu'il y a de la confusion face à cette décision-là, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est influencé par la pensée du monde qui dit c'est correct, alors que nous ne sommes pas assez versés dans les Écritures, on ne comprend pas ce que Dieu dit vraiment par rapport à l'avortement. Ça peut nous mettre dans la confusion, peut-être la douleur aussi, parce que dans la situation, c'est peut-être pas facile si on a fait face à une décision comme ça, ou bien si on a été victime pour une raison quelconque, on a été touché par l'avortement. C'est peut-être souvent difficile à gérer. On le comprend, c'est peut-être difficile à gérer. Mais la Bible peut nous aider à passer à travers. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est touché, on a été touché par l'avortement, ou bien on est tenté de le considérer? Pour toutes sortes de raisons, qu'on soit des couples qui sont ensemble, des couples chrétiens, mais pour une raison quelconque, les difficultés financières, on a peur de ne pas avoir les moyens de souvenir aux besoins de nos enfants, etc. On peut peut-être penser à cela. Peut-être que la relâche de l'avortement, si c'était le cas, il faut toujours faire confiance à l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est puissance. Dieu est pardon. Il ne change pas. Il ne change pas. Il y a un exemple dans la Genèse, dans Genèse chapitre 16, qu'on peut, je pense qu'on peut se référer si jamais on fait face à une décision, qu'on ne sait pas quoi faire, on est hésitant. On sait que la Bible nous pointe toujours vers l'obéissance à ce que la parole nous dit, mais l'humain peut avoir des moments d'hésitation où on ne fait pas confiance, on s'inquiète indûment. Il y a cet exemple dans la vie de Agar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme-là. La servante de Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'elle a été violée. Mais je me demande, est-ce que sa grossesse a été désirée? Quand nous connaissons la situation où elle vivait en tant que femme, en tant que servante, pour devenir enceinte de son maître. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est pourchassée. Elle est mise à la porte. Et je pense que c'était une situation difficile pour Agar. Elle est arrivée même dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu se manifeste sa bonté. Et pour cette femme-là, pour moi qui vivais cette épreuve-là, elle n'avait pas d'argent dans le désert, mais Dieu était là. Et nous savons comment Dieu a pourvu pour cette femme-là, lui donner une postérité, lui faire des promesses pour son enfant. Et je pense que c'est un texte qui peut vous encourager si vous faites face à une décision comme ça, de faire confiance au Seigneur, de faire confiance au Seigneur et choisir de lui obéir. Parce que la vie, pour Dieu, c'est précieux. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Et c'est lui qui pourvoit pour la vie. Peu importe ce qu'on pense qu'on a comme ressources, finalement, c'est Dieu qui est à la base de tout, qu'on peut lui faire confiance et certainement faire confiance à sa parole. Ses plans sont parfaits. Et même si vous avez été... vous avez pointé le pas vers la grossesse, vers l'avortement. Ne pensez pas que Dieu vous abandonne. C'est peut-être un poids lourd. Les souffrances sont peut-être là. Mais l'Éternel désire vous faire grâce. C'est un Dieu de grâce. Il fait miséricorde. Car c'est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, nous dit Isaïe. Heureux. Et ce texte-là est adressé à un peuple, le peuple juif, qui est amené en exil parce qu'il a été désobéissant, parce qu'il n'a pas observé les ordonnances de l'Éternel. Et juste avant, on voit les punitions qui sont énumérées pour Judas, qui est en exil, qui souffre les conséquences de sa désobéissance. Et juste après, dans le verset 18, on voit ce texte-là qui est très rafraîchissant pour Judas. Dieu voulait vraiment rappeler à Judas qu'il est là pour lui. C'est un Dieu juste et miséricordieux pour ceux qui espèrent en lui. Et si vous êtes dans ce carrefour de décision, c'est peut-être pas le réflexe naturel de l'homme de se tourner vers Dieu, mais ce que la Bible nous démontre, c'est que c'est la chose à faire, de se tourner vers Dieu. Et lui obéir, ce que Dieu nous demande de faire, voir les priorités de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la vie. Dieu nous demande tu ne tueras point. Dieu ne veut pas qu'on procède à l'avortement, peu importe les circonstances. Et si vous faites face à ce dilemme-là, choisissez d'obéir et de compter sur la grâce de notre Dieu qui est compatissant et riche en bonté. Notre Dieu, notre bon Père céleste, ta parole est claire, elle est remplie de promesses pour ceux-là qui sont tes enfants. Et c'est pour cela que tu nous appelles tous à être tes enfants, pas juste tes créations, tu as fait le grand pas pour nous donner accès, pour que nous puissions devenir tes enfants. Et merci Seigneur de nous rappeler de ta bonté, de ta miséricorde. Ce matin, je prie pour ceux-là peut-être qui sont face à une décision comme cela, ou bien qui veulent avoir une compréhension de ta parole. Nous te demandons que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse les diriger vers ta parole encore, vers toi, ce que tu veux, Seigneur. Pour que ton Esprit puisse les illuminer, Seigneur, qu'ils puissent choisir d'obéir, de comprendre que ta volonté, c'est que la vie est précieuse, Seigneur. C'est toi qui donne la vie, que tu pourvois pour tes enfants. Même quand on est désobéissant, Seigneur, on peut se tourner vers toi. On peut te demander pardon et tu es prêt à nous pardonner, Seigneur. S'il y a des personnes qui luttent avec ce poids-là, Seigneur, nous te prions que tu puisses leur donner cette compréhension de ta bonté, de ton pardon, s'ils puissent se présenter devant toi et te demander pardon. Et tu es prêt à les accueillir et te les faire du bien. Qu'ils puissent te faire confiance en toutes circonstances, parce que c'est toi qui donnes la vie et sois... Tu fais provision pour tes enfants. Merci Seigneur parce que tu nous donnes des exemples et tu nous répètes à tout encore et encore dans ta parole que tu es le Dieu qui donne la vie, tu as des plans pour nos enfants. On n'a pas à nous inquiéter sur nos enfants, que ce soit un enfant désiré ou pas. C'est ta volonté, c'est toi qui donnes la capacité de faire l'enfant. C'est toi qui crée cet enfant-là. Nous pouvons te faire confiance Seigneur et merci Seigneur pour ta parole qui nous rassure de ta bonté, de ta miséricorde, même quand c'est une erreur de notre part, Seigneur, qu'on peut revenir devant toi avec un cœur contrit, sachant que tu nous pardonnes. Et sois avec eux qui sont en face peut-être à une telle décision, rappelle-les, Seigneur, de ta grâce dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent se remettre à toi pour toute chose. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui a rendu tout cela possible, nous t'avons prié. Amen.